Père Philippe Blé, bonjour.
Bonjour.
Nous avons la joie de vous accueillir à RCF pour une nouvelle émission, toujours autour de votre livre « Les grandes énigmes de l'Apocalypse, la clé des symboles ». Dans une première émission, nous avions parcouru un peu l'ensemble du texte et ses grands enjeux. Et aujourd'hui, nous allons peut-être plus nous focaliser sur ce que vous appelez dans l'ouvrage et dans l'Apocalypse de Saint Jean, ce que vous avez repéré comme étant le cycle des grandes figures. Alors peut-être avant d'aborder ce cycle des grandes figures, pour nos auditeurs, pouvons-nous peut-être rappeler, bien dans le fond, ce texte d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il est ? Un secret ?
Certainement. Un secret, c'est-à-dire, c'est l'écriture elle-même, une parabole à découvrir. Il y a un texte qu'on reçoit et qui est volontairement est quand même difficile à pénétrer. C'est vraiment, par exemple, les monstres qui nous sont présentés par Jean. On est obligé de s'arrêter. Et il y a un secret, mais qui est d'ordre spirituel et qui, lui, est harmonieux à découvrir. C'est ce sens-là. Et l'autre sens du mot secret, c'est le sens de l'amour. C'est les secrets de l'amour divin, comment Dieu utilise toutes les cordes de sa ruse, si j'ose m'exprimer ainsi, eh bien pour libérer l'homme de ses erreurs et des ténèbres qui voudraient l'engloutir.
Voilà, donc l'Apocalypse, une révélation, mais une révélation qui nous tourne vers l'amour, mais sans oublier cette profondeur du combat spirituel, et nous allons y aller en plein, si j'ose dire, avec cette évocation maintenant des grandes figures. Et donc, je crois qu'on commence par évoquer la femme et le dragon.
Exactement. Il y a, au milieu de l'Apocalypse, donc en pleine action apocalyptique, entre les deux derniers septénaires, qui sont le moment où Dieu formule sa sentence et celui de l'exécution, eh bien, il y a un grand développement. Mais toujours symbolique, que Jean nous fait pour mieux nous expliquer le sens justement de ces trompettes, de ces coupes sans lesquelles on aurait un peu de mal quand même à s'y retrouver. Le premier, c'est un grand signe, nous dit Jean. Et ce grand signe, c'est une femme rayonnante. Elle est revêtue, elle a un vêtement qui est de lumière, qui est de soleil, nous dit le texte. Elle a la lune sous ses pieds. Et elle est couronnée de 12 étoiles. La tradition a unanimement reconnu dans cette femme et la Vierge Marie et l'Église. Les deux réalités se superposent. C'est normal, c'est l'Immaculée dans toute sa beauté spirituelle qui nous est présentée sous cette forme symbolique. C'est l'Église dans ce que Dieu veut, dans le projet divin. C'est ça qui est intéressant de noter. L'action se passe au ciel. Et c'est... On voit tout de suite, c'est ça qui nous désarçonne un peu lorsqu'on lit le texte, c'est qu'au ciel, on aperçoit aussi un autre signe, un grand dragon. Vous voyez, c'est pas un grand signe, mais c'est un grand dragon.
Oui, c'est lui qui est grand, vous le dites dans le texte. Hein. Lui, il est simplement grand, mais c'est que lui qui est grand, par la taille.
Hein. Exactement.
Voilà. Il n'est grand que par la taille.
Il est grand et il est laid.
Mmh. Oui, il est tout à fait.
Comment le mal, parce qu'il symbolise véritablement le mal, il est le diable, comment peut-il se trouver au ciel, voyez ? Or, ça nous dit tout de suite, les lieux où se déroule l'action doivent être contemplés avec attention. Il y a le ciel, il y a la terre, et c'est pas il y aura la mer aussi, c'est encore un autre élément. Donc, le ciel, c'est le principe de toute chose. Donc, quand on contemple l'Église, c'est en tant que projet divin. Donc elle est toute pure, elle est toute belle, c'est le projet que Dieu a accompli par Jésus-Christ d'abord, et qu'il a vers lequel il veut tendre, que tous les hommes tendent. Il veut renouveler la beauté native des âmes des hommes. Notre âme, lorsqu'elle se laisse éclairer par la lumière d'en haut, devient très belle et on redevient vraiment l'enfant que le Père nous a donné comme modèle en Jésus-Christ lors de sa transfiguration. Et donc, voilà, le premier grand signe, le second signe sont liés l'un à l'autre. Cette femme, d'une beauté incroyable, et ce dragon. La femme d'abord, regardons un peu les symboles pour comprendre la pensée johannique et entrer dans le mystère qu'il nous donne à contempler. C'est le soleil, c'est un symbole dans la Bible de Dieu.
De Dieu, c'est la révélation divine, le soleil.
Ou de révélation, effectivement, Dieu lui-même, ou ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui nous éclaire. Donc, c'est ce que non. La révélation, c'est ce qu'on ne peut pas déduire, c'est ce qu'on ne peut pas trouver tout seul. C'est le contraire, vous voyez, de l'effort philosophique. La méditation assidue d'une réalité pour essayer de comprendre le sens de la vie, pour comprendre, essayer de se relier à la finalité ultime qui explique notre existence ici-bas. Là, c'est une révélation par définition, c'est ce qu'on ne peut pas voir, c'est pourquoi elle se passe au ciel. Et alors, l'homme ne peut pas deviner tout seul quel est le projet de Dieu. Donc, il nous le donne sous la forme de cette femme. Elle est rayonnante, elle instruit, elle rayonne, quoi, comme la Jérusalem nouvelle à la fin du texte de l'Apocalypse. C'est la même image. La lune, c'est le symbole du monde passager qui est le nôtre. On parle de gens qui sont lunatiques parce qu'ils ont une humeur un peu cyclothymique, changeante. Ils passent d'un extrême à un autre. Eh bien, ça, c'est tout l'effort moral, vous voyez, qui est signifié par là. Elle l'a sous ses pieds, qui est le symbole aussi de sensibilité, les pieds, en général, dans la Bible. Et ça veut dire qu'elle maîtrise. Elle maîtrise vraiment ses pensées, elle maîtrise sa vie morale, elle est toute belle et toute pure. Elle est dans un combat, mais un combat victorieux. Ça peut désigner aussi une connaissance indirecte. La lune reflète la lumière du soleil, et bien de cette manière-là, c'est l'effort théologique qui peut être aussi représenté par l'Église dans son effort théologique, parvient à rejoindre Dieu, à vivre en Dieu par la foi. Enfin, elle est couronnée de 12 étoiles, ces 12 étoiles, c'est les 12 apôtres, c'est un symbole ecclésial par excellence. C'est intéressant de voir que dans la Bible encore, les étoiles en général, les astres, sont ou bien le symbole des anges, ou bien le symbole des saints, de tous ceux qui font voir la lumière d'en haut d'une manière ou d'une autre. Voilà un peu le symbolisme. Donc elle a cette église, elle est porteuse de la révélation. Ça, c'est une chose qu'on doit toujours se rappeler. On la transmet depuis 2000 ans, c'est un trésor incroyable. Elle est porteuse aussi de la vie, du combat spirituel, d'une leçon, d'une tradition sur le combat moral et sur les valeurs morales qu'il faut adopter en ce monde. Et enfin, elle engendre dans le monde des figures qui sont extraordinaires, comme Mère Teresa, comme Jean-Paul II, qui sont des lumières.
Et vous dites d'ailleurs dans l'ouvrage que la femme, présentée particulièrement, qu'on a reconnue, qu'on a interprétée comme l'Église, comme Marie, vous dites la femme c'est symbole de fécondité spirituelle, mais dans le cadre du combat pour la foi. Il ne faut pas dissocier cette fécondité, mais dans le cadre d'un combat qui est orienté.
On ne peut pas le dissocier, on est obligé de combattre.
Vers la vie, vers cette vie reçue. Et on ne peut pas oublier non plus, en voyant cette évocation de la femme, que Jean, je fais juste un retour à l'évangile de Jean, qu'au pied de la croix, il y a cette femme, Stabat Mater, Marie et Jean, qui sont là tous les deux autour de Jésus, dans cette contemplation de celui qui donne sa vie, d'où coule l'eau et le sang, et qui est la promesse de l'Esprit, et qui est la naissance de l'Église aussi, en quelque sorte, à cet endroit-là.
Ah oui, tout à fait. Et c'est dans la douleur que signifie le combat spirituel, d'ailleurs, que la croix, bien sûr, manifeste. C'est ces deux symboles qui se rejoignent parfaitement.
Alors, il y a la femme, et puis il y a ce fameux dragon.
Le dragon. Alors, le dragon, qui est-ce ? C'est le diable. Le diable, la tradition nous enseigne qu'il était, avant sa chute, Lucifer, le plus beau, la plus grande créature angélique. C'est incroyable la chute, il est toujours au ciel, là. C'est-à-dire, on contemple le secret, le mystère de l'identité du dragon. Eh bien, celui qui était porteur de la lumière, Lucifer, ça veut dire qui porte la lumière, la lumière de Dieu, bien sûr, cette lumière-là, il est devenu un monstre. Comment expliquer ce passage ? Un monstre redoutable. Le monstre, dans la Bible, c'est l'image du mal. Et j'aime à évoquer l'exemple du cancer, des cellules cancérigènes, voyez ?
Et vous les citez dans l'ouvrage, d'ailleurs,
Parce que c'est une bonne image pour le monstrueux. Vous avez normalement dans un corps qui est sain et bien des cellules qui sont affectées à divers organes et qui renouvellent l'organe, qui se multiplient pour renouveler les différents organes qui composent notre corps. Elles sont donc ordonnées à une finalité. Elles travaillent à un corps bien défini, qui a des proportions, qui est harmonieux. Le propre du cancer, c'est justement que les cellules semblent, et effectivement, perdent toute notion de la finalité. Elles se mettent à vivre pour elles-mêmes, en quelque sorte. Et elles se mettent à croître dans tous les sens, et donc à obstruer, à déformer, et à conduire à la mort l'organisme. Eh bien, on a visuellement le monstre, au sens moral cette fois-ci, dans la Bible, c'est la même chose. C'est une créature qui se coupant de Dieu, refusant le projet de Dieu, c'est le cas du dragon au ciel, eh bien, vit pour lui-même. Mais comme il n'est pas Dieu, aucune créature n'est divine, eh bien, il devient monstrueux comme cet organisme dont je parlais.
Avec nous, le père Philippe Play pour découvrir les grandes énigmes de l'Apocalypse. Et nous sommes en train, avec vous, père Play, d'évoquer ce cycle des grandes figures. Et nous venons d'évoquer la femme dans l'Apocalypse. Et maintenant, nous évoquions à l'instant le dragon. Alors ce dragon, vous dites, c'est le monstre absolu, c'est celui qui s'oppose complètement à Dieu.
C'est le père du mal. C'est Lucifer devenu le dragon, le père du mal. Et le mal, eh bien, il est né au ciel, paradoxalement. Il est né dans le refus du diable. Par rapport à quoi ? Mais par rapport à la naissance de l'enfant. La femme qui nous est présentée est dans les douleurs de l'enfantement. Et le dragon, veut dévorer l'enfant. Ça signifie symboliquement, et Jean est le seul auteur du Nouveau Testament à nous le dire, vous voyez, c'est une grande réalité théologique, ce qui a déclenché la révolte du dragon et qui l'a entraîné sur la terre, parce qu'il a été chassé du ciel, eh bien, c'est l'incarnation. Le projet de Dieu de vouloir faire une alliance avec une créature inférieure aux anges, l'homme, donc le créer d'abord, bien sûr, pour faire une alliance avec lui, la femme, dont elle est l'image. Et ça, c'est ce que le dragon a refusé. Et il entraîne avec lui eh bien, un tiers des anges, nous dit le texte. Avec sa queue, il balaie un tiers des astres. C'est les anges qui l'ont suivi dans ce combat. Et il est précipité sur la terre. Et sa première chose, alors sur la terre, outre le fait qu'il va poursuivre la femme, mais on n'a pas le temps là de détailler cela.
On découvrira dans le livre, voilà. Il faut bien que les gens aillent découvrir votre livre.
Ne pouvant rien contre la femme, eh bien, il n'a rien pu faire contre l'enfant de la femme d'abord. Au ciel,
oui,
sur
fait.
La terre, là, contre la femme, c'est-à-dire l'Église, le projet d'Église que Dieu veut, il ne peut rien non plus. Alors il va combattre le reste de ses enfants, nous dit Saint Jean. Et le reste de ses enfants, il ne va pas les combattre directement. Vous voyez, le propre du mal, c'est de se cacher derrière des médiateurs, des intermédiaires. Il ne se montre pas pour lui-même. Au ciel, il est le principe, donc on le voit. Mais sur la terre, il va susciter deux bêtes. La première bête, nous dit-il, c'est la bête de la mer. Elle surgit de la mer. Alors elle est à l'image du dragon, vous voyez. On nous dit, je ne l'avais pas encore mentionné, maintenant avec la bête on peut le mentionner, elle est à son image, elle a 7 têtes et 10 cornes. Alors comment interpréter cela, cette monstruosité particulière ? On a l'image d'une intériorité en réalité démoniaque. Mais c'est l'image d'une intériorité, il ne faut pas chercher dans le sens du symbole quelque chose à l'extérieur, une ville qui serait située sur 9 collines, par exemple, sur 7 collines, vous voyez. Ça c'est matériel, mais il y a beaucoup de villes dans le monde qui sont situées sur 7 collines, et c'est pas très parlant. Ce que Saint Jean veut nous montrer, c'est autre chose, une réalité de foi. Il nous dit, la tête c'est un symbole de l'intelligence, la corne c'est un symbole c'est une arme naturelle, un symbole de puissance. Donc c'est ce qu'on peut faire, c'est ce que quantitativement, voilà. Matériellement.
Donc, puissance et intelligence.
Et ça, il y a une disproportion, et c'est ça la monstruosité. Vous voyez, 7 têtes, 10 cornes, on ne peut pas caser d'une manière harmonieuse 10 cornes sur seulement 7 têtes. Hein. C'est pas, il manque là quelque chose.
Sa boîte.
Sa boîte. Et donc, et le déséquilibre penche du côté de la puissance. C'est-à-dire, une machine, en quelque sorte, finit par s'emballer. Et c'est la puissance, c'est-à-dire l'action, qui l'emporte sur la maîtrise, sur l'intelligence, sur la capacité de raisonner et de maîtriser, d'organiser un événement, quoi que ce soit. Donc voilà la monstruosité. C'est l'expression de la rage aussi, vous voyez. lorsque eh bien la raison finit par être débordée par un sentiment plus fort. C'est la rage qui conduira le dragon à détruire Babylone, sa propre œuvre, par rage. C'est proprement diabolique, ça. C'est le mal. Et la bête de la mer est à son image. Mais alors, il faut pas. Elle va fasciner, elle va séduire, nous dit Saint Jean, les habitants du monde entier. Alors, comment une telle bête aussi repoussante peut-elle séduire ? Eh ben, il faut pas. Elle n'est pas matérielle, elle n'est pas physique, cette bête. C'est plutôt une jolie Vénus qui sort des eaux, vous voyez, pour les hommes qui l'aperçoivent. Mais c'est une idée, en fait, c'est un projet. Elle est la bête de la mer, symbolise en quelque sorte. Elle est le porte-parole du dragon. C'est elle qui va faire la campagne publicitaire pour la philosophie du dragon. Quelle est la philosophie du dragon qu'il veut nous faire partager, à nous autres les hommes ? Eh bien, il nous dit, mais devenez mûrs, devenez grands, devenez des adultes, prenez votre destin en main, devenez des dieux. Ce qu'il avait dit à Ève au commencement du monde, rien de plus, c'est toujours le même message que le dragon annonce. Là, c'est par la bête de la mer, comme un idéal, comme une manière enthousiasmante. Et alors les hommes se mettent derrière.
Sont effectivement fascinés.
Sont fascinés par cette bête. Et rien ne peut l'arrêter. Il est dit qu'une de ses têtes était blessée à mort et qu'elle a repris vie. Et c'était un motif pour les hommes de s'émerveiller davantage encore. Le seul endroit, quand on cherche dans le texte, où il y a eu un combat, où donc elle a pu être blessée, c'est les deux témoins. Les deux témoins, c'est des prophètes qui parlent de la révélation. Et le glaive, c'est un symbole de la parole de Dieu. Donc le glaive a blessé le mensonge, dirons-nous rapidement. Et les hommes ont pu entendre cette dénonciation. Et pourtant, eh bien, ils sont revenus sur le beau programme. Donc elle a été guérie. C'est-à-dire que les hommes, finalement, malgré les arguments rationnels qu'on a pu donner, ont choisi de suivre la bête. C'est en raccourci, comment on pourrait condenser la chose. Ils sont séduits. Et alors après, il y a une autre bête qui monte de la terre, nous dit Saint Jean. Elle n'a pas le même aspect. Elle ressemble à un agneau. Elle évoque un agneau, comme ça, lorsqu'on la voit. Et c'est-à-dire une figure humaine, on va dire, douce, raisonnable. Et lui, son rôle, il est soumis à la première bête, c'est d'incarner sous une forme sociologique l'idéal, l'utopie, comme on dit, de l'idéologie de la bête. Cette idéologie de libération, de prise en main de son destin en tant qu'humanité, vous voyez. Et alors, il fait construire aux hommes une image de la bête qu'il peut animer, faire parler, mettre à mort tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Et c'est là qu'on nous dit que on ne pourra rien acheter ni vendre si on a le chiffre du nom de la bête, le fameux 666. Voilà. Et si on n'adore pas cette image. Plus loin, on retrouve le sens de cette image. Parce qu'en réalité, cette image, elle nous est bien décrite, c'est Babylone. Babylone est construite par les hommes, c'est les hommes qui construisent cette société qui recherche la transcendance, vous voyez, dans l'immanence. Alors, qu'est-ce qui peut être transcendant dans le sens de l'immanence, c'est-à-dire sur la terre, sans regarder le ciel, uniquement la vie présente ? Eh bien, c'est l'individu est transcendé par l'espèce. L'individu est transcendé par l'idée d'humanité en progrès. On a eu des tas d'idéologies comme ça, au XXe siècle, le marxisme par exemple, ou d'autres, qui nous ont prôné ce type d'idéal, c'est-à-dire ce renversement. On garde l'idée d'une transcendance, mais elle est complètement horizontale. Et on nie, on refuse, on combat de toutes ses forces l'idée d'une souveraineté exercée par un créateur qui serait au-delà de la matière, Dieu lui-même bien sûr. Et ça, c'est toute la révolte du dragon, toute sa religion, car c'est une véritable religion, eh bien, qu'il veut faire partager aux hommes. Et le combat spirituel consiste, eh bien, évidemment, à refuser cela. Et c'est difficile. Quand tout le monde est dans cet engouement général, dans cette fascination, parce que Babylone est une société qui est vraiment brillante, elle aussi. Elle est couverte d'or, nous dit Saint Jean, cette femme. Elle est représentée sous forme d'une femme. Alors, très belle, elle aussi, une prostituée, nous dit le texte, ce qui évoque les idolâtries. Elle est pleine d'or, de bijoux, elle est brillante. Vous voyez, c'est l'antithèse de la femme qu'on voit au ciel, le projet de Dieu pour l'Église, pour le monde. elle est, c'est le projet du dragon, Babylone. Et alors, c'est ce projet-là que le dragon veut nous faire miroiter. Il nous dit, faites votre paradis ici-bas sur la terre, ne le recherchez pas dans un autre lieu, devenez souverain de vous-même. Bon, on sait bien que personne n'est souverain de lui-même, alors c'est l'humanité souveraine d'elle-même, voyez. Et c'est ainsi que le mensonge se diffuse. Et au moment où toute la terre semble avoir suivi la bête, eh bien, arrive l'agneau sur le mont Sion. Et l'agneau, eh bien, va tout reconquérir. Et d'un seul coup, voyez, tout semblait perdu. Et d'un seul coup, l'agneau, surgit, le Christ, la surgit. Et
il nous tourne. La réalité du Christ.
Il nous tourne vers le ciel. Il ouvre, lui, les portes du ciel. À tous ceux qui veulent le suivre, eh bien, peuvent le suivre. Ce sont les 144 000 élus, un chiffre symbolique.
Voilà. Et alors, pour découvrir comment ce 144 000 a été construit, eh bien, je vous invite à aller regarder de près comment le Père Philippe Play nous explique ce chiffre et bien d'autres. Au-delà de l'explication du chiffre, vous nous donnez, Père Philippe Play, et nous venons de vous écouter longuement, à entendre autrement ce texte, c'est-à-dire vous nous aidez à y entrer avec Jean le visionnaire, Jean le prophète, Jean qui était sur l'île de Patmos et qui a passé sa vie à contempler le Verbe, à s'en nourrir. Et comme vous-même, vous vous nourrissez, je crois, de cette parole de Dieu que vous avez à cœur de nous partager. Merci d'être venu nous ouvrir aux grandes énigmes de l'Apocalypse. Alors nous aurons encore besoin de temps, je pense, et de lecture pour mieux saisir tout ce que vous nous offrez dans ce beau livre, Les grandes énigmes de l'Apocalypse, la clé des symboles, près de 320 pages. Donc je crois qu'on peut passer une année avec vous, avec un chapitre par mois, puisqu'il y a le texte de l'Apocalypse dedans, que vous avez retraduit, et puis vos commentaires. Chaque chapitre possède un encadré. C'est une belle, belle lecture spirituelle, et merci à vous de nous l'avoir offerte.
Merci à vous.